Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
C'est Anne-Laure pour RVM. Je suis à Saint-Sauveur avec Clotilde Ney, animatrice nature au CPIE des Pays de l'Oise, et nous allons faire une balade faunistique et floristique en forêt. Je vous ai déjà proposé la première partie de ce reportage. Voici la seconde.
Donc les corbeaux, oui, à la base, c'est complètement charognard. Et plus ils se sont rapprochés de l'homme, en fait, plus ils sont venus avec nous dans nos villages, parce que à la toute base, ils étaient à côté de nos villages, plus ils sont devenus opportunistes. Ça veut dire qu'ils mangent à peu près tout ce qu'ils trouvent. Il y a des petites histoires qui rôdent autour des corbeaux. C'est que les corbeaux, bah, c'est tout noir. Mmh. Ça fait un cri qui est pas joli. Ça fait partie de la famille des corvidés. Donc tous les oiseaux qui font partie de la famille des corvidés, nous, l'espèce humaine, on a tendance à dire qu'on les aime pas. Donc les pies, les corbeaux, les corneilles, les geais aussi.
Ça porte malheur.
Ça porte malheur. Et en fait, à la base, on disait que ça portait malheur parce qu'ils arrivaient pendant les épidémies, quand dans les villages on n'avait pas encore de médicaments, pas encore de médecins, ou alors ils soignaient avec des sangsues. Et les corbeaux, ils venaient quand ça commençait à sentir le sapin. Donc on disait, bon bah les corbeaux, ils arrivent, portent malheur, c'est la catastrophe qui arrive. En fait, les corbeaux, ils arrivaient une fois qu'il y avait déjà des charniers, et une fois qu'il y avait déjà la maladie qui s'était installée, et déjà des corps. Donc c'était pas du tout les corbeaux qui attiraient la maladie, c'était les corps qui attiraient les corbeaux. Et les pies, c'était pareil. Les pies, on les a domestiqués un petit peu plus vite que les corbeaux. Évidemment, les corbeaux, c'est tout noir, les pies, c'est noir et blanc, donc on avait quand même un petit peu plus de facilité avec les animaux noirs et blancs que les animaux tout noirs. Et les pies, on les a domestiqués et on en a fait, en fait, à la base, c'était nos premiers chiens de garde. Donc les pies, on les mettait à l'entrée des villages, elles étaient libres, elles avaient assimilé l'humain comme une pie, en fait, vu qu'elles avaient été élevées par des humains, les oiseaux, quand on les élève à la main, ils assimilent les humains comme ceux de leur espèce. Donc elles ne s'enfuyaient pas. Et dès qu'il y avait un intrus, le groupe de pies qui était domestiqué, jacassait, et donc ça faisait office de chien de garde. Et même parfois, je sais pas si vous avez déjà vu, si vous baladez votre chien en forêt, qu'il attaque une pie. Vous en avez toujours deux, trois dans les arbres, et elles vont toutes jacasser très très fort, et même se rapprocher sur les branches du bas. Donc c'est limite, tu fais gaffe, parce que si tu continues de les attaquer, on arrive, quoi. Et se faire attaquer par des pies, ça fait mal. Ça a des becs très très durs. Et donc tous ces corvidés-là, ils nous ont suivis depuis très longtemps, et maintenant, actuellement, on ne les aime toujours pas. Et ils sont classés, plus comme nuisibles, parce que c'est plus un terme qui est utilisé, mais ils sont classés comme espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc la superstition les suit un petit peu. Et d'habitude, j'essaye de comprendre un peu, les renards, ça peut être considéré comme espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, parce que si on a un élevage de poules, c'est pénible, un renard. Donc ok, pourquoi pas, mais les corneilles, les corbeaux et les pies, j'ai encore du mal à comprendre et j'ai du mal à vraiment me dire, oui, il y a des raisons. Parce que les pies, elles vont être dans les habitations, dans les maisons, autour de nos maisons surtout, elles vont pas vous faire beaucoup de tort. Je sais pas si vous avez déjà eu des problèmes avec les pies.
Pour un classement comme ça, donc, Ésode, tu disais, il y a forcément des raisons, en fait, je veux dire, pour qu'elles soient classifiées comme ça.
Il y a des raisons.
C'est obligatoire, non ?
Il y a des raisons. Et pour certaines espèces, c'est purement, c'est ancré dans nos gènes, en fait. On n'aime pas ces animaux-là, donc on va les classer comme Ésode parce qu'ils nous ont toujours causé des dégâts. Et maintenant, ce serait, il y a des chasseurs et des piégeurs qui ne basent leur métier que sur la chasse à la corneille. Ouais, du mythe, voilà, c'est ça. Que sur la chasse à la corneille ou que sur le piégeage, quoi. Donc, ce serait causer du tort à ces gens-là. Et en fait, il y a beaucoup d'associations qui se battent contre ces pratiques-là, la LPO par exemple. Mais moi, j'ai plus tendance à penser qu'elles vont disparaître avec les gens qui la pratiquent. Donc les gens qui pratiquent ça, le piégeage des pies, le piégeage des corneilles, la chasse à la corneille, ils ont entre 70 et 80 ans, voire plus pour certains. Et donc, ça va disparaître avec eux. Donc dans 20 ans, il n'y a plus. Donc en soi, ils se battent pour ces causes-là. Je préfère garder mon énergie pour d'autres choses. Je ne comprends pas forcément, c'est pas bien, mais quand je trouve une cage avec une pie à l'intérieur, je sais qu'on n'a pas le droit, désolé à la radio. Je le dis publiquement, mais du coup, je vais ouvrir la cage et sortir la corneille ou la pie, quoi, parce que je trouve ça injuste. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire ça, alors que c'est des animaux. Ok, on peut avoir un problème avec une corneille, une pie, si vraiment elle vient à chaque fois détruire notre poubelle, c'est pénible et l'en mettre partout. Si on a un champ avec qu'on plante du maïs ou des graines, d'autres graines, et qu'ils viennent ravager le champ, on peut faire appel à la fédé de chasse dans ces cas-là pour faire un affût et en tuer quelques-unes. Mais faire des quotas de corneilles alors qu'il y a des endroits où elles posent absolument pas problème, là je suis un petit peu plus contre.
Le Pouillot Véloce.
Donc le Pouillot Véloce qu'on entend chanter là, qui est beaucoup plus facile à reconnaître au chant qu'à la vue, parce qu'à la vue, comme vous pouvez le voir là, c'est un petit piaf marron, comme on les appelle dans le domaine naturaliste. Donc il n'a aucune caractéristique physique, si ce n'est que c'est un petit oiseau marron. Et donc pour le reconnaître à la vue, c'est compliqué. Au chant, c'est plus simple. Il y a un gros bourdonnement de foin aussi qui vient de là-bas, donc ça doit venir du roncier, ou alors il y a une ruche dans un trou. Sur la route, on a aussi croisé des mésanges. Je vous apprends pas les mésanges, hein, ça ressemble. Et on a aussi croisé cet oiseau-là. On l'a entendu. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Le pinson.
Ouais, le pinson des arbres, tout à fait. Donc, le pinson des arbres, qui est un très bon chanteur, très très bon chanteur. Comme tous les oiseaux qui chantent très bien, bon, on a voulu le mettre dans une cage pour le garder avec nous, pour qu'il chante pour nous. C'est classique. Si ça s'était arrêté là, ça aurait été trop beau. Le pinson, le mâle, chante jusqu'à ce que l'autre mâle qui chante en face de lui s'en aille. Il abandonne et se dise, bon bah il est trop fort pour moi, c'est pas possible. Et on s'est rendu compte que le pinson en cage chantait de mieux en mieux quand il ne voyait pas. Donc on a couvert les cages, mais on est bien vicieux, nous on aime bien faire des choses assez sympas aux animaux. Pour pousser le vice encore plus loin, on a fini par coudre les yeux des pinsons pour qu'ils ne fassent que chanter de toute leur vie et qu'ils s'épuisent. C'est assez cruel, mais ça nous a permis de découvrir que les pinsons, en fonction de l'endroit d'où ils viennent, donc en fonction de la région, ils ont des dialectes différents, donc ils ont des patois différents. Par exemple, le pinson médocain va pas avoir le même chant exactement que le pinson picard ou que le pinson breton. Donc c'est assez intéressant. Et si on met des œufs bretons avec des parents picards, les petits oisillons bretons vont avoir le chant des parents picards. Donc le chant des oisillons, il n'est pas inné, il est acquis. En revanche, il y a un autre oiseau que je trouve assez exceptionnel, qui sera le dernier oiseau de notre sortie. Je suis tombée un peu amoureuse de cet oiseau, même si bon, il n'est pas particulièrement sympa avec les autres. C'est lui. On le voit pas souvent, celui-là. C'est un mélange entre un pigeon et un faucon. On se doute pas du tout. C'est le coucou.
Ah, il est cette couleur.
On le voit jamais, on l'entend, c'est tout.
Mais on l'entend.
Ouais, mais on le voit
c'est
jamais.
C'est lui qui va piquer le nid des oiseaux.
Il va piquer le nid des oiseaux. Donc c'est un parasite. Il va pondre un seul et unique œuf dans le nid d'un autre oiseau. Le petit va pousser les œufs ou les oisillons si les oisillons sont déjà nés. Ça ne lui pose pas de problème. Et il va être nourri par ses parents adoptifs. Admettons, le coucou va pondre dans le nid d'un rouge-gorge. Les rouges-gorges vont le nourrir. Il ne va voir que des rouges-gorges, puisqu'il va l'assimiler à ses parents. Il va grandir avec des rouges-gorges, entendre les chants de rouges-gorges et s'envoler de son nid, comme si c'était un rouge-gorge. En revanche, est-ce que vous avez déjà entendu un coucou faire un autre chant qu'un coucou? Alors qu'il n'a jamais écouté de chant de coucou de sa vie, puisque pour lui, c'est un rouge-gorge. Pareil, est-ce que vous avez déjà vu un hybride rouge-gorge-coucou? Non plus. Donc le coucou n'a jamais vu ses parents, il ne sait pas qu'il est vraiment coucou, mais il sait avec qui se reproduire. Et surtout, le coucou est un migrateur transsaharien. Le rouge-gorge, pas du tout. Ça, je dis rouge-gorge parce que c'est souvent les nids de rouge-gorge qui sont parasités. Donc le coucou, dans ses gènes, il a, dans sa carte graphique interne, il a tout de noté. Donc il sait quel chant il doit faire, il sait avec qui il doit se reproduire, il sait à quoi ressemble son espèce, et il sait surtout quand partir et où migrer. Les coucous, ils migrent en solitaire, donc tout est inscrit dans leur tête. Ils savent où partir, quand partir, avec qui partir, à partir de quelle température partir, et surtout quel champ magnétique terrestre suivre. Quand on voit ce qui est capable de faire cette petite bestiole-là, est-ce que nous, on a d'inscrit dans nos gènes, c'est-à-dire respirer? Bon, on a quand même pas les malins à faire, hein. On est quand même vachement moins avantagé que le coucou, hein.
Vous écoutez Clotilde Ney du CPIE des Pays de l'Oise, Centre permanent d'initiative pour l'environnement, avec qui nous faisons une balade en forêt de Compiègne, à côté de Saint-Sauveur, autour de la faune et de la flore. Nous avons vu le corbeau, le coucou, et maintenant parlons un peu des plantes.
Du coup, je disais, là, il y a une plante devant nous, violette, qu'on va commencer à voir un peu partout. Il y a plein de pieds qui vont commencer à repartir, à fleurir. C'est une plante qui est super jolie. Quand on a des appareils photo pour prendre des photos de près, elles sont vraiment magnifiques. Et quand on les regarde d'un peu près, justement, on voit qu'elles ont des crochets. Je vais te prendre un bout, ma grande. Hop ! Elles ont des grands crochets comme ça qui sortent de la plante. Et avant, quand on pensait que tout ce qui ressemblait à un animal, c'était pour soigner sa morsure, on pensait que ça soignait les morsures de serpents. Donc on prenait cette plante-là, quand on se faisait mordre par un serpent, on frottait et on pensait que ça marchait. Ça ne marche pas, donc du coup. Et du coup, ça lui a donné son nom, ça s'appelle la vipérine. Ça va être un crochet comme ça qui sort. Voilà, maintenant on l'appelle vipérine. Et on sait que ça ne fonctionne pas. Et avant, on pensait que ça soignait les morsures de serpents. Voilà.
Je suis avec Corinne, donc on vient de terminer cette balade faunistique et floristique à Saint-Sauveur. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie, Corinne? Est-ce que vous avez appris des choses?
Ah bah bien sûr qu'on a appris plein de choses sur la faune, la flore. En plus, notre guide était très pédagogue. On a appris plein de choses, découvert des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'elles existaient sur les animaux. Vraiment très très bien. Je ne regrette pas d'être venue et j'aimerais renouveler l'expérience, peut-être sur un autre site.
Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous souvenez en particulier?
Ah... le pie vert avec sa langue, dont la langue entoure tout le cerveau pour lui éviter, lorsqu'il pique l'arbre, de devenir fou. Voilà.
Vous connaissiez le CPIE ?
Non, du tout.
Ah bah voilà, c'est une bonne découverte.
Du tout. J'ai découvert ça sur le site de la mairie, justement, qui nous proposait cette balade. Je m'y suis inscrite et puis ça nous a vraiment beaucoup plu.
Donc vous allez peut-être reconduire l'expérience.
Ah, très certainement.
Bon, bah merci beaucoup,
vous
Corinne. C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais à une balade faunistique et floristique avec Clotilde Ney du CPIE des Pays de l'Oise, où nous avons pu explorer plusieurs plantes ainsi que des oiseaux. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.